Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, c'est pour moi un grand plaisir de prendre part aux travaux de ce débat, de ce panel, dans le cadre de ce cycle de formation. Aujourd'hui, on va aborder. On m'a demandé de faire brièvement une présentation sur la déclaration de l'ONU sur l'éducation et la formation aux droits de l'homme. Je compte faire diviser ma présentation en trois chapitres. Brièvement, ça va être la genèse, l'historique. Puis, deuxièmement, ça va être les négociations de ce projet. Et puis, troisièmement, ça va être le contenu de la déclaration. Mais je laisserai mon collègue parler plus du côté critique, le positif et le négatif de la déclaration. Moi, je vais être, en tant que diplomate, je vais être tout le temps positive, mais je serai également incluse dans le débat avec M. Ramdan.
Donc, c'est une véritable diplomate.
Je vous remercie pour ça. Alors, l'historique. Donc, tout a commencé lorsque le Maroc et la Suisse sont présentés au Conseil des droits de l'homme, ici à Genève, en septembre 2006, une résolution numéro 6 sur 10 demandant au comité consultatif, donc au sein du Conseil des droits de l'homme, il faut savoir qu'on a un comité qu'on appelle le comité consultatif qui a été établi par la résolution 5.1 du Conseil des droits de l'homme et il est composé de 18 experts qui forment une sorte de think tank, un groupe de réflexion pour le Conseil des droits de l'homme. Donc le Maroc et la Suisse ont présenté au Conseil des droits de l'homme une résolution en septembre 2006 intitulée 6 sur 10, demandant au comité consultatif d'élaborer un projet de déclaration sur l'éducation et la formation aux droits de l'homme. Donc suite à cette demande, les experts du comité consultatif ont demandé d'abriter au Maroc, en juillet 2009, un séminaire à Marrakech qui a regroupé des experts de différents horizons pour discuter du contenu de ce projet. Donc, en parallèle, le Conseil des droits de l'homme a tenu un débat de haut niveau durant le segment de haut niveau au sein du Conseil des droits de l'homme lors de sa session de mars 2010, auxquels ont participé notamment des ministres des pays membres du pôle. Donc le pôle éducation et formation aux droits de l'homme, c'est un groupe composé du Maroc, la Suisse, Costa Rica, l'Italie, les Philippines, le Sénégal et la Slovénie. C'est ce pôle-là qui a orienté le comité consultatif et les informels et les négociations sur cette déclaration. Donc ce pôle-là, le comité consultatif a soumis au Conseil des droits de l'homme un projet de déclaration à travers ce pôle. Donc c'est un peu compliqué si je peux être interrompue si quelqu'un, parce que c'est tout le temps comme ça les négociations, il faut d'abord des demandes au conseil à travers des résolutions, il faut demander au pôle, il faut demander au comité consultatif, ça se passe pas aussi facilement que ça, donc il faut juste se mémoriser qu'il y avait une demande du Maroc et de la Suisse vers le comité consultatif. Le think tank du Conseil des droits de l'homme devrait se réunir à Marrakech pour faire une réflexion sur le contenu de ce projet. Et puis, suite à ça, ils font une demande officielle. Et donc, la demande officielle, c'est le pôle éducation et formation aux droits de l'homme qui, à travers une résolution qu'il faut tenir, la résolution 13-15, il a demandé au Conseil de créer un groupe de travail intergouvernemental. Ce groupe de travail intergouvernemental était chargé de négocier, d'établir et de soumettre au Conseil des droits de l'homme le projet de déclaration et par, par cette résolution 1315 qui a créé ce groupe de travail, on demande de tenir des consultations informelles également avec les pays du Conseil des droits de l'homme, mais aussi avec la société civile et toutes les parties prenantes pour avoir leur réaction au contenu de cette déclaration. Donc, dans ce cadre, le pôle a tenu 3 réunions informelles, le 24 juin, le 3 septembre et le 14 décembre 2010. Donc, ces consultations informelles ont été ouvertes à toutes les parties prenantes et a connu la participation d'un grand nombre, comme j'ai dit, de délégations et de membres de la société civile. Donc, cette série de réunions a permis d'examiner substantiellement le projet de déclaration préparé par le comité consultatif. Donc, elles ont ainsi permis au pôle de préparer un nouveau texte, parce que il faut savoir qu'il y avait un premier draft du comité, un premier projet du comité consultatif, mais suite à ces examens avec la société civile et également avec les autres délégations au sein de ce groupe intergouvernemental, le pôle a préparé un nouveau texte qui prend en compte toutes les observations et amendements faits durant les 3 réunions informelles. 4 ans après son lancement, le processus d'élaboration de cette déclaration arrive à terme, avec notamment l'adoption par le Conseil des droits de l'homme en mars 2011 de la résolution 16.1 sur intitulée « La déclaration des Nations Unies sur l'éducation et la formation aux droits de l'homme » qui a été présentée par le Maroc au nom du pôle éducation et formation aux droits de l'homme qu'il faut tenir, qui est composé du Costa Rica, Italie, Maroc, Philippines, Sénégal, et Slovénie et la Suisse. Donc la résolution 16.1 soumise au Conseil était de nature purement procédurale, qui avait d'ailleurs 2 paragraphes, je vais les lire ultérieurement. L'objectif de cette résolution était de marquer l'adoption formelle par le Conseil des droits de l'homme du projet de déclaration finalisé par le groupe de travail le 14 janvier. Et si vous voulez, c'est contenu, si vous faites Google, c'est contenu dans le rapport A/HRC/WG9/1/3. Je pourrai vous donner ces informations plus tard. Donc, comme j'ai dit, cette résolution contient 2 paragraphes opérationnels recommandant à l'Assemblée générale à New York 1. D'adopter la déclaration annexée à la résolution et 2. D'appeler tous les États des Nations Unies ainsi que les autres parties prenantes à intensifier leurs efforts pour la dissémination de son contenu. Donc, on a souligné la question de la dissémination, d'où maintenant j'applaudis ce que vous faites, madame. Ces réunions, c'est une sorte de dissémination du contenu de la déclaration des Nations Unies sur l'éducation et la formation en droits de l'homme. Ainsi, aux Nations Unies, à l'Assemblée générale à New York, le 19 décembre, l'Assemblée générale adopte sans vote la Déclaration des Nations Unies sur l'éducation et la formation aux droits de l'homme par sa résolution 66/137. Donc cette étape marque l'adoption finale de la déclaration par les Nations Unies. Donc cette déclaration des Nations Unies, cette résolution faite par l'Assemblée générale à New York, la résolution a également 2 paragraphes. Donc, le premier paragraphe opérationnel adopte également la déclaration. Et puis, le deuxième paragraphe est là également ce que vous êtes en train de faire, madame, c'est qu'elle invite les gouvernements, les institutions et organismes des Nations Unies, ainsi que les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales, à intensifier leurs efforts en vue de diffuser la déclaration et d'en promouvoir le respect et la compréhension sur une base universelle et prie le secrétaire général de faire figurer le texte de la déclaration dans la prochaine édition de la publication Droits de l'homme, recueil d'instruments internationaux. Ça, c'est des choses, un détail, c'est un rapport annexé qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Donc ça, c'était l'historique, soi-disant. Ce qui s'est passé au sein du Conseil des droits de l'homme à Genève, c'est un processus très long qui a pris beaucoup de temps, 4 ans, entre les différents comités, groupes de travail, etc., pour aboutir à l'adoption par l'Assemblée générale de la déclaration sur l'éducation et l'information en droits de l'homme. Donc, maintenant, le processus de négociation. Et ça, c'est mon deuxième chapitre. Comme j'ai dit, le pôle éducation et information en droits de l'homme a fait une série de consultations consultations informelles avec les différentes délégations, mais également avec la société civile. Et il a fait preuve d'un grand esprit d'ouverture, de dialogue et de compromis, parce que ce n'était pas évident. Je vais expliquer ça après. Un grand esprit d'ouverture, de dialogue et de compromis. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, la majorité des préoccupations exprimées ont été prises en considération. Donc, généralement, le projet de déclaration a été généralement, je dis, accueilli favorablement par toutes les délégations, alors, à l'exception de l'article 1.1, définissant le droit à l'éducation et la formation en droits de l'homme, c'est cet article-là qui a suscité un large débat et des réserves de la part de certaines délégations. Là, je suis en train de me demander si j'ai le droit de révéler qui sont ces délégations, mais... Bon. Bon, on va dire que ça a suscité un large débat parce que tout simplement, alors je vais trouver un moyen de dire ça, le droit à l'éducation et à la formation aux droits de l'homme en tant que droit, ce n'est pas ce n'est pas reconnu par tous les pays en tant que droit. On dit droit à l'éducation, d'accord. Mais droit à l'éducation et la formation aux droits de l'homme, ce n'est pas accepté par tout le monde. Donc on a essayé c'était très difficile, mais on a essayé quand même d'avoir cet article dans la déclaration et on a réussi, hein, on l'a dans la déclaration. Donc le pôle a entamé des démarches. Comment on a pu réussir ça? C'est tout simplement on a entamé des démarches auprès des délégations qui s'opposent à ce droit afin de les sensibiliser. On a entamé également des démarches avec la société civile qui a joué un grand rôle, un rôle qu'on peut applaudir. Et puis on a essayé de trouver un compromis. On a également, et ça nous a également beaucoup aidé, le pôle s'est mobilisé auprès des délégations, entre guillemets, amies de la déclaration. Alors, pour qu'ils se prononcent toujours en faveur de ce droit lors des différentes informelles. Là, je peux citer hein, les pays, comme on appelle, amis de la déclaration. On peut dire la France. Bon, à part le pôle, hein, il y a la France, l'Argentine, entre autres, hein, Maurice, Slovéquie, ça, c'est les pays que j'ai devant moi, mais je sais qu'il y en a d'autres qui nous ont beaucoup aidés. Donc, le pôle a... Le Maroc, le Sénégal qui sont partis. Le Maroc et le Sénégal qui sont partis du pôle. Ils sont les initiateurs. Hein. Donc, le pôle a appelé toutes les parties prenantes à faire preuve d'ouverture et d'esprit de compromis afin d'aboutir à un résultat attendu. Et c'est quoi ce résultat? C'est le renforcement de l'arsenal juridique international parce qu'il y avait des lacunes. On n'avait pas une déclaration, une convention sur justement l'éducation et la formation aux droits de l'homme. Donc c'était pour répondre à ce manque dans l'arsenal juridique international. Et là je passe au troisième chapitre, le contenu de la déclaration, sans toucher le contenu de votre... Je pense que vous allez vous focaliser sur le positif et le négatif. Vous allez être plus en détail dans la déclaration. Moi, c'est plus le positif pour moi, hein, en tant que défendeur, hein, les défendeurs, le pôle... Les défendeurs des droits de l'homme, donc les défendeurs de la déclaration, on a fait notre maximum et c'est ça les points qu'on défendait pour aboutir au résultat tant attendu, c'était l'adoption de la déclaration. Donc pour nous, cette nouvelle déclaration onusienne représente le premier instrument entièrement élaboré par le Conseil des droits de l'homme ici à Genève depuis sa création en 2006. Donc pour nous, c'était vraiment un aboutissement. Hein. C'était le premier instrument entièrement élaboré par le Conseil des droits de l'homme. Les autres instruments, ils étaient initiés à New York et négociés à New York. Mais là, ça a été entièrement élaboré par le Conseil des droits de l'homme ici à Genève en 2006. Donc cette déclaration, elle vient compléter l'arsenal d'instruments internationaux en matière des droits de l'homme et combler les lacunes en matière d'éducation à l'information aux droits de l'homme. Donc pour nous, elle représente le fruit d'un compromis obtenu grâce à la mutualisation des efforts de tous et un engagement constructif et collectif. Alors, la déclaration pour nous, d'un côté... Elle réaffirme que, alors je cite, « Chacun a le droit de détenir, de rechercher, de recevoir des informations sur l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, par conséquent, chacun doit avoir accès à l'éducation et à la formation en droits de l'homme. » Et de l'autre côté, elle précise qu'il revient aux États au premier chef, de promouvoir et d'assurer l'éducation et la formation en droits de l'homme. Donc, en outre, elle contient une définition claire et précise de l'éducation et la formation en droits de l'homme, de son étendue, de ses principes et de ses différents moyens pouvant assurer sa mise en œuvre effective. Donc, elle ouvre également la voie à des initiatives à venir dans le cadre du suivi de cette déclaration au niveau national, régional et international, notamment en matière de coopération internationale. Et ça, c'était très important pour nous, la coopération internationale. D'ailleurs, ça a été cité dans plusieurs articles de la déclaration. Donc, pour nous, l'objectif ultime de cette déclaration est de mettre en place un instrument juridique international qui, bien que non contraignant, juridiquement, elle représentera une référence pour la mise en œuvre du droit à l'éducation et la formation aux droits de l'homme. Donc, voilà, brièvement, je vous ai donné un petit aperçu de l'historique de la négociation de cette déclaration au sein du Conseil des droits de l'homme. Si vous avez des questions, je pourrais répondre éventuellement dans le cadre de mes connaissances, parce que la déclaration, ça a été commencé depuis 2006, comme j'ai dit, en 2006, nous, les diplomates, on n'était pas là, on était au ministère des Affaires étrangères, donc ça change beaucoup, hein. Il y avait mes collègues, mais j'ai assez d'informations devant moi pour répondre à vos éventuelles questions. Je vous remercie et vous souhaite de bons travaux.
Merci Madame Moutchou pour votre franchise. Vous êtes bien restée dans le cadre de votre mission. N'ayez pas peur. Nous, on apportera les autres informations si nécessaire. Mais ça ne vous engage pas du tout. Parce que nous-mêmes, nous avons participé à toute l'élaboration du processus. Donc, durant ces 4 ans, on a travaillé avec le comité consultatif. On est arrivé à un texte, notamment rédigé par le professeur Emmanuel Decaux, qui a été discuté à Marrakech, d'un texte pour nous qui était formidable. Et après, il y a eu toutes les négociations et effectivement, il a fallu arriver à l'aboutissement d'un texte qui pour nous, ONG, n'est pas satisfaisant, mais au moins, on a un texte, on reste positif. Et sans plus tarder, après on rentrera dans le débat, si vous voulez, je donne la parole à Ramdan.